France Culture et les 16h, tout de suite, Science Publique, Michel Alberganti.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Science Publique. Vous retrouvez aujourd'hui notre émission mensuelle réalisée en partenariat avec le magazine Science et Vie. Et comme toujours, vos réactions sont attendues sur le site de Science Publique au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Quel mystère cache la particule X du CERN ? Vous vous souvenez certainement de la découverte du boson de Higgs annoncée le 4 juillet 2012 et confirmée par le CERN en mars 2013. L'événement a été salué dans le monde entier. Il a valu le prix Nobel de physique à François Engler et Peter Higgs dès 2013. Alors imaginez que cet été, le CERN annonce une nouvelle découverte, celle d'une particule inconnue, baptisée pour l'instant particule X. Une telle annonce aurait probablement encore plus de retentissement que celle du boson de Higgs. Pourquoi ? Eh bien parce que le boson de Higgs existait, dans la théorie, depuis 1964, soit près de 50 ans avant sa découverte expérimentale au CERN. La particule X, en revanche, ne fait pas partie, contrairement à ce boson de Higgs, du modèle standard. La théorie qui décrit depuis le milieu des années 1970 les particules subatomiques, c'est-à-dire plus petites que les atomes. La possibilité de l'existence de cette particule X, aussi mystérieuse qu'inattendue, provient d'un signal enregistré fin novembre 2015 par l'accélérateur de particules du CERN, le LHC. Grâce à sa puissance augmentée, les collisions de particules ont engendré un signal qui correspond à l'existence d'une particule inconnue. Les deux expériences menées parallèlement, CMS et ATLAS, ont enregistré ce signal. Toute la question réside dans la confirmation d'une telle découverte. Nous devrons attendre cet été et le redémarrage du LHC pour avoir une réponse à cette question. Mais déjà, les physiciens ne peuvent s'empêcher d'imaginer la suite, car si la particule X existe bien, elle remet en cause le modèle standard lui-même. Elle ouvre peut-être la porte à une nouvelle théorie qui pourrait combler des lacunes importantes. Le suspense est donc à son comble. À ce stade, nous sommes dans la situation d'une découverte en gestation. Suivant ce qui se produira au CERN, la physique pourrait vivre un moment historique, ou bien les attentes des chercheurs pourraient être déçues et les expérimentateurs si les expérimentateurs du LHC identifient les causes de ce signal improbable comme une erreur de manipulation ou d'interprétation. Nous allons explorer ces différentes possibilités aujourd'hui dans Science Publique. Pour cela, nous recevons en direct depuis le studio 1 de la Maison de la Radio Abdelhak Djouadi, directeur de recherche au laboratoire de physique théorique d'Orsay, Elisabeth Petit, chargée de recherche CNRS au laboratoire de physique subatomique et cosmologie de Grenoble et membre de la collaboration ATLAS au CERN, Yves Sirois est responsable du groupe CMS du CERN pour le CNRS et il travaille sur les activités électron-photon et les analyses pour la production du boson de Higgs. Il nous racontera tout cela. Et enfin, Mathieu Grousson est journaliste, auteur du dossier sur la particule X publié dans le numéro de mai 2016 du magazine Science et Vie, donc notre partenaire pour cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Science Publique, tout en bas de la page de l'émission sur franceculture.fr. Mathieu Grousson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de ce dossier consacré par Science et Vie à cette particule X et qui est intitulé « L'univers n'est pas ce qu'on croit ». Alors pour quelle raison avez-vous décidé de publier cette enquête à un moment où l'existence de cette particule X reste encore à confirmer ?
Eh bien parce qu'il nous a semblé que nous étions en train de vivre possiblement un très grand moment de science qui a donc commencé le 15 décembre lors de la publication, de l'annonce de ce petit excès, de cette anomalie dans les données prises par ATLAS et CMS, deux détecteurs du CERN, deux anomalies, deux petits signaux qui pourraient signifier, pour le dire très vite, que nous ne comprenons rien de la structure intime de la matière. Quand je dis matière, c'est la matière ordinaire, celle dont nous sommes faits, vous et moi, de même que la Terre, les étoiles, les galaxies.
Voilà, les atomes en fait, les atomes. La composition des atomes qui constituent tout cela.
Absolument, et comme vous l'avez très bien rappelé, tout cela demande encore à être confirmé, mais pour autant, c'est la première fois depuis le démarrage de ces deux expériences en 2009 que les deux détecteurs observent simultanément une anomalie à ce niveau d'intensité. Et ceci a soulevé dans la petite communauté des physiciens des particules un immense enthousiasme, du moins une grande excitation. Pour donner un exemple, dans les semaines qui ont suivi la publication des données expérimentales, on a vu la mise en ligne d'environ 150 publications théoriques pour essayer de tirer les conséquences, de décrypter ce message que nous a fait parvenir l'infiniment petit. Et c'est ça que nous avons voulu raconter dans Science et Vie. Ce qu'est cette anomalie? Qu'est-ce que ce signal découvert au CERN? Qu'est-ce que on peut en tirer? Quelle nouvelle vision cela va obliger les physiciens à forger de ce que nous savons de la matière et puis partager avec eux, alors qu'on attend une confirmation, peut-être une information, mais on l'espère une confirmation cet été, et bien partager avec eux leur excitation et leur enthousiasme.
Voilà, mais c'est ce que nous allons faire exactement aujourd'hui, partager cet enthousiasme dans cette phase un peu critique de la découverte, entre guillemets donc. Yves Sirois, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous dirigez l'une des deux expériences qui ont détecté, comme le rappelait Mathieu Grousson, ce fameux mystérieux signal en novembre 2015. Alors, en quelques mots, que s'est-il passé au CERN ce jour-là?
Ben, je voudrais déjà rebondir sur ce qu'a dit Mathieu par rapport à un grand moment de la science. Ça, c'est vrai, c'est un grand moment de la science. Pas seulement parce qu'on a un signal ou éventuellement une fluctuation, mais parce qu'on est dans une période probablement la plus riche de l'histoire de la physique des hautes énergies maintenant, parce qu'on a augmenté la puissance de la machine et qu'on accède à des territoires inexplorés. Donc, on est en train d'explorer des territoires complètement nouveaux. Ça vient juste après une période extrêmement riche, puisqu'on a fait la découverte du boson de Higgs. Et le boson de Higgs, c'est pas juste un truc de plus. C'est quelque chose de vraiment, vraiment fondamental. Il faut savoir qu'un boson, si on veut faire simple, c'est ce qui véhicule les interactions. Alors, les interactions, on en connaît 4 interactions fondamentales, et on pense que la forme que prend ces interactions fondamentales, ça a été écrit vraiment au début de l'univers, dans les premiers instants de l'univers. Et dans ces premiers instants de l'univers, le champ de Higgs, le boson de Higgs, est apparu pour donner la masse aux particules. Sans la masse, il n'y a pas d'organisation de la matière. Il n'y a pas d'atomes, il n'y a pas de protons, il n'y a pas de neutrons, il n'y a pas de matière organisée. On ne peut pas avoir de matière organisée sans la masse. Parce que sans la masse, une particule, ça va avec, à la vitesse de la lumière. Ce boson de Higgs nous place dans une perspective grandiose, puisqu'il nous se rattache à l'histoire de l'univers, vraiment à l'histoire de la matière. Ça a introduit aussi dans la théorie des problèmes. Et en fait, la phase actuelle, elle consiste à essayer de trouver ce qui doit aller en plus pour régler un certain nombre de problèmes fondamentaux dans la théorie. Ce qu'on a observé là, si c'est un signal, il résout pas vraiment les problèmes. Des problèmes de plus. Et voilà, on va y revenir plus tard.
On va expliquer pourquoi. Elisabeth Petit, bonjour.
Bonjour.
Donc vous faites partie de l'autre expérience, ATLAS, qui a observé, comme le disait Mathieu Grousson, le même signal au même moment, pendant la même expérience. Alors comment avez-vous réagi quand vous avez vu ce fameux signal dont on dira un petit peu plus, on donnera des détails plus tard?
Oui, on reviendra peut-être sur qu'est-ce qu'on veut dire exactement, voilà, parce qu'on a vu un signal. C'est vrai que... Donc pour l'instant, on est très prudent. On parle d'excès plus que de signal. Donc, on reviendra peut-être sur...
Mais votre réaction, déjà, quand vous avez, vous avez été témoin de cet événement, on va l'appeler comme ça, quelle a été votre réaction première?
C'est quelque chose qui apparaît petit à petit. Parce que d'abord, on prépare nos analyses avant d'avoir les données. Puisqu'on veut vraiment... quand on fait des recherches, on veut... ne pas se biaiser en regardant les données, en se disant « Ah, peut-être qu'il y a quelque chose ». Mais donc, on prépare vraiment en amont, avant d'avoir les données, pour vraiment comprendre notre analyse. C'est revu par pas mal de personnes, tout ça. Et après, une fois qu'on est confiant totalement dans ce qu'on fait, là, on regarde les données. Et effectivement, on a vu ce petit excès. Donc alors, en fait, notre première réaction, c'est de se dire « Ah, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème quelque part ?» Donc, pas vraiment dans l'analyse, puisque comme je l'ai dit, ça, c'est vraiment préparé en amont. Mais c'est vrai que ATLAS ou même CMS, c'est vraiment des machines énormes, avec il y a des millions de canaux d'électronique, tout ça. Donc, il peut y avoir, ça arrive des fois, un câble qui est des défauts de haute tension, tout ça. Donc, c'est vraiment, en fait, notre premier réflexe, dès qu'on voit un petit excès comme ça, c'est vraiment tout vérifier. Et voilà, on a écrit des centaines de pages de vraiment... regarder un par un tous ces événements et être sûr que, voilà, jusqu'ici, on n'a pas vu de problème.
Donc vous n'avez pas sauté de joie en disant, voilà, ça y est, on a découvert quelque chose. Vous avez plutôt émis tous les doutes et les questionnements possibles à la suite de cette observation. Yves Sirois et ensuite Mathieu Rousson.
Ben, vu d'un expérimentateur. Imaginez, la loterie. Il y a bien des gens qui gagnent à la loterie, mais c'est extrêmement improbable de gagner à la loterie. Mais si vous achetez beaucoup, beaucoup de tickets, vous avez plus de chances de gagner à la loterie. Donc nous, on achète plein de tickets, puisqu'on regarde tout partout, dans plein de distributions, plein d'observables, et de temps en temps, ça fluctue. Donc c'est pas la première réaction, ils disent, bon, on regarde si cette fluctuation est un peu plus significative que les autres. On s'est aperçu que c'était corrélé dans les deux expériences. On a rajouté un petit peu d'informations à Morion, très peu, mais ça va encore dans le bon sens. Ça évolue dans le bon sens et à ce moment-là, on est raisonnablement, disons, excité. Mais c'est pas du tout le même état d'esprit qu'à l'époque en préparation de la découverte de ce qu'on espérait, disons, le boson de Higgs, parce qu'on savait déjà que si on faisait cette découverte, on changeait vraiment de façon fondamentale et à jamais l'histoire de l'univers d'une certaine façon. Et on savait que si on trouvait pas le boson de Higgs, on changeait aussi l'histoire de l'univers, parce que l'un et l'autre, il fallait absolument qu'il y ait quelque chose. Là, on est à la recherche de quelque chose de profond qui explique des caractéristiques fondamentales de la théorie. Et ce truc, c'est une surprise. La première réaction, c'est un peu une surprise.
Même une grande différence avec le boson de Higgs.
Si c'est vrai, c'est une surprise. Moi, je me demande vraiment qui a fait les plans. Il y a un problème dans les plans. Hein? On avait un puzzle. Le puzzle est complet. On a toutes les pièces. Les pièces, c'est clair. On a vu l'image. Tout est parfait. On a tiré une pièce qui n'a pas la bonne couleur, qui n'a pas la bonne taille, qui n'a pas la bonne saveur et qui ne rentre pas dans le dessin. Donc, on est un peu étonné.
Donc, c'est parce qu'on est un peu étonné. Pas dans le puzzle qui était prévu. En fait.
Donc, comme on est un peu étonné, je rejoins là complètement Elisabeth. Nous, expérimentateurs, on dit bon, la nature fonctionne pas comme ça. Déjà, elle a plus d'imagination que les théoriciens. Et d'autre part, en général, elle nous emmène quelque part dans quelque chose qui est toujours extraordinaire. Et là, c'est moins évident. Donc, peut-être parce qu'on n'a pas encore les bonnes théories, peut-être qu'on va découvrir autre chose aussi.
Mathieu Grousson.
Oui, pour rebondir sur votre question sur l'enthousiasme des physiciens, on est au milieu du guet. C'est pas facile pour eux de communiquer sur ce qu'ils ont observé parce qu'il faudrait surtout pas laisser croire qu'on a découvert quelque chose. D'où leur retenue, et c'est bien normal. Mais quand on pose la question aux expérimentateurs, je dirais, dans un cadre plus privé, ils ont quand même, ils manifestent qu'ils ont découvert quelque chose qui fait plaisir à voir, même si ça demande encore à être confirmé. Quand on parle avec les théoriciens qui n'ont pas la responsabilité des expériences sur les épaules, eh bien pour certains d'entre eux, pas tous, mais pour un certain nombre, ils sabrent déjà le champagne.
Bon, voilà qui est dit donc un peu sur le off de cette histoire, hein, sur ce qui n'est pas totalement officiel. Peut-être revenir sur le fonctionnement du LHC. Là, on va parler des conséquences de cette peut-être possible découverte, mais encore faut-il connaître le cadre dans lequel ça se situe. Alors, je ne sais pas qui veut, Elisabeth Petit, nous expliquer qu'est-ce qui se passe au LHC. À quoi sert cet instrument gigantesque de 27 km de diamètre, de circonférence plutôt.
Voilà, donc effectivement, le LHC, c'est une immense machine. Donc, pour vous faire une idée, 27 km, c'est à peu près la taille du périphérique parisien. J'ai vu ça en venant. Et donc, on veut explorer vraiment ce qu'il y a, les plus petites particules de matière. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend des protons, donc qui sont des constituants des atomes, et on va les faire rentrer en collision et observer ce qui se passe. Donc, pour vous donner une analogie, vous voulez comprendre comment marche une montre. Seulement, le seul instrument que vous avez pour comprendre cette montre, c'est un marteau. Vous allez taper sur la montre, et juste en observant tous les petits débris qui sont sortis de la montre, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans la montre et comment elle marchait. Et donc là, c'est vraiment ce qu'on fait. On a des collisions de protons, ça va créer des myriades de particules qu'on enregistre dans nos détecteurs, et ensuite, on essaye de regarder, donc il y a énormément d'événements, il y a 40 millions de collisions par seconde, donc on a énormément, énormément d'événements, et en fait, on les regarde, donc on a des méthodes informatiques maintenant pour les voir, et parmi tous ces millions de collisions, on essaye de trouver quelque chose de significatif
qui correspond à l'existence d'une particule spéciale. Yves Sirouin.
Juste pour compléter, dans le même ordre d'idée, il y a, disons, trois éléments fondamentaux. On est à haute énergie. Pourquoi on est à haute énergie? Parce que les hautes énergies correspondent à des petites distances. Et là, on sonde un dix millième à peu près de la taille d'un proton. Donc, on va à des très, très petites distances. On met beaucoup d'énergie, ça veut dire qu'on peut créer de la masse. Par E égale MC2, tout le monde connaît. Donc, on peut créer des particules. Et ensuite, on a des hautes énergies, ça veut dire aussi de la haute température. Et là, c'est des puissances énormes de degrés et Kelvin équivalent. En fait, on remonte à la température après le Big Bang, à peu près un millième de milliardième de seconde après le Big Bang. Donc, si vous voulez, on crée dans la taille d'un proton des conditions qui sont assez proches du Big Bang. Dans ces conditions-là, on espère faire remonter, comme j'ai dit que les lois de la physique sont écrites dans les premiers instants, mais on espère voir les particules qui correspondent, qui sont matérialisées, qui correspondent à cette physique, des premiers instants. Pour donner juste une échelle de la rareté, si on normalise par rapport à une collision proton-proton, c'est à peu près 2 puissance 10 à la 13, donc à peu près un 10 millième de milliardième de collisions qui sont intéressantes. Tous les autres, on ne les utilise pas, en fait. Il y a énormément de collisions, mais une fois sur 10 millièmes de milliardième de collision, on garde la collision, on l'enregistre, et c'est à peu près l'ordre de grandeur du type de signal qu'on a vu. Donc c'est des processus très rares.
Très bien, alors on attendait l'arrivée d'Abdelhak Djouadi qui est en duplex depuis Genève avec nous. On me fait signe qu'il est arrivé. Abdelhak Djouadi, vous m'entendez ?
Oui, je suis formidable. Là. Bonjour.
Bonjour. Donc vous êtes le théoricien dans cette émission. Et de votre côté, alors même question que celle que j'ai posée à Elisabeth Petit et Yves Sirois. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris la possibilité de la découverte d'une nouvelle particule au CERN ?
Bah, c'était tous nos espoirs et tous nos désirs qui se concrétisaient, quoi. On est avec, je sais pas si ça avait été déjà discuté, mais on est avec un modèle depuis 30 ans, 40 ans. Et on n'a pas trouvé encore de faille à ce modèle-là. Et puis, d'un coup, voilà une nouvelle particule qui sort complètement du cadre et qui nous entr'ouvre une porte vers, quelque chose au-delà, quelque chose qu'on connaît pas encore. En plus, ça.
Il doit s'entendre parler. Hein.
Je ne sais pas si ça avait été discuté. Mais
il y a un écho derrière lui.
Complètement du cadre habituel et des choses qu'on imaginait avant pour la nouvelle physique, au-delà de ce modèle-là avec lequel on joue, enfin avec qu'on utilise depuis une trentaine, une quarantaine d'années.
Alors là, vous en parlez un peu comme si c'était un fait acquis.
J'irai pas jusque là maintenant. C'est les expérimentateurs qui vont avoir le dernier mot, bien sûr. Mais pour nous, théoriciens, bon, ça faisait partie de nos attentes et donc que ça soit arrivé n'est pas tout à fait surprenant. On sait que le modèle qu'on utilise actuellement, c'est le modèle standard là qui décrit les trois interactions fondamentales de la nature, trois des interactions fondamentales de la nature. On sait qu'il a des problèmes, assez importants, hein, et que quelque chose au-delà de ce modèle-là devait se manifester. Alors peut-être pas aux énergies du LHC, effectivement, ça c'est c'était notre espoir que les énergies du LHC étaient assez importantes pour nous faire découvrir ce qui était au-delà du modèle standard. Et ben le fait que ça soit arrivé, bon, c'est une bonne surprise en soi. Dans le sens où, pour cette partie-là, on n'en était pas entièrement sûr, mais c'était pas entièrement une surprise parce qu'on savait de toute façon qu'il allait y avoir quelque chose au-delà de ce modèle-là.
Alors, pour bien situer ce qui s'est passé, c'est un peu finalement le contraire de la découverte du boson de Higgs. Le boson de Higgs était quelque chose que l'on cherchait et que l'on a trouvé, alors que là, on trouve quelque chose que les physiciens ne cherchaient pas au sens strict. Oui,
absolument.
Abdelhak Djouadi.
Absolument. 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 Alors, je parlais tout à l'heure des problèmes du modèle standard. Et en fait, un des problèmes fondamentaux du modèle standard était effectivement dû à ce boson de Higgs qu'on a découvert et qui, lui, par contre, était prédit depuis à peu près une cinquantaine d'années. On savait qu'il fallait le produire, hein, et qu'on pouvait pas le rater.
Hein. Et on pouvait pas s'en passer surtout pour que le modèle standard fonctionne tel qu'il
absolument.
Était.
Permettez-moi de contredire Abdelhak ici.
Bon, attendez, Yves Sirois n'est pas tout à fait d'accord.
Non, parce que c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. On avait contraint extraordinairement fortement la zone possible pour l'existence de Van Ries. Mais jusqu'au dernier moment, il aurait très bien pu ne pas être là, et on avait des solutions alternatives, certes moins élégantes, mais on avait des solutions alternatives. Sauf la nature a choisi.
C'est trouvé être là où vous le cherchez.
Exact. La nature a choisi une solution extraordinairement élégante, et ça fait partie de ces grands miracles de la science où de temps en temps, à partir de principes fondamentaux, la nature nous dit il doit exister cela, et ça existe vraiment. Mais elle aurait pu aussi nous surprendre différemment.
France Culture, Science Publique, Michel Albert-Gonti.
Je vous rappelle que nous débattons aujourd'hui autour de la question « Quel mystère cache la particule X du CERN ?» avec nos invités Abdelhak Djouadi, directeur de recherche au laboratoire de physique théorique d'Orsay, Elisabeth Petit, membre de la collaboration ATLAS au CERN, Yves Siroy, responsable du groupe CMS au CERN, et Mathieu Grousson, journaliste et auteur du dossier sur la particule X publié dans Science et Vie. Mathieu Grousson qui voulait intervenir.
Oui, je voulais simplement rebondir sur ce que disait Abdelhak Djouadi quand il disait gros espoir. Effectivement, la physique des particules est dans cette situation un peu paradoxale. D'un côté, on a une théorie, le modèle standard, qui fonctionne extrêmement bien, qui a été, dont toutes les prédictions ont été vérifiées depuis 40 ans, et qui, pourtant, depuis le premier jour, on le sait, contient énormément de problèmes et ne répond pas à un certain nombre de questions. Donc les physiciens savent qu'ils doivent forcément trouver quelque chose de nouveau. Là, ils ont peut-être un embryon de quelque chose de nouveau, et en plus, cette nouveauté ne ressemble à rien de ce qu'ils attendaient. C'est un moment extrêmement passionnant de la physique des particules.
Ouais, Yves Siroy fait plein de gestes.
C'est vrai ce qui est dit, mais pas exactement vrai. On a, avec le boson de Higgs, pour la première fois dans l'histoire des sciences, une théorie valable à toutes les échelles, jusqu'à l'échelle de Planck. On pourrait, en principe, s'arrêter là, mettre la clé sous la porte. Ce n'est pas satisfaisant, parce qu'on a une théorie qui est ajustée de façon très fine, et on a démarré avec une vision de l'univers où les interactions étaient, disons, inévitables, et on arrive avec un truc complètement improbable. Donc, c'est pas satisfaisant intellectuellement, mais c'est mathématiquement absolument correct. Donc, de trouver quelque chose de nouveau, c'est extrêmement intéressant et ça nous emmène ailleurs.
Alors, un mot d'Abdelhak Djouadi, je crois qu'il veut intervenir.
Oui, ça c'est vraiment la différence de point de vue et d'attitude entre un expérimentateur et un théoricien. Pour un théoricien, le modèle standard est absolument ingérable. Hein. C'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner parce que il y a des problèmes absolument gigantesques. Alors je passe sur les problèmes esthétiques. Par exemple, on nous dit que le modèle standard unifie les trois interactions dont on parlait. En fait, c'est pas vrai, parce que finalement, il n'y a pas un seul groupe de symétrie, il n'y a pas une seule constante de couplage pour ces trois interactions-là. Donc, il y a quelque chose de plus qu'il faut
ajouter envisager. Au modèle. D'accord.
Absolument. Il y a des problèmes plus importants, qui sont des problèmes phénoménologiques. Par exemple, un des exemples qu'on utilise le plus souvent, c'est ce problème de la matière noire.
Alors, excusez-moi de vous interrompre, mais on va revenir sur les implications d'une confirmation de la découverte de la particule X. Mais sinon, si on ne le fait pas tout de suite, je pense qu'on n'aura pas le temps de parler de la probabilité de cette découverte, de la probabilité que ce signal dont on parle depuis le début de l'émission corresponde bien à l'existence d'une nouvelle particule. Alors, où en est-on dans l'évaluation de cette probabilité, Elisabeth Petit ?
Oui, donc en fait, on a un critère en physique de haute énergie qui dit que pour dire qu'on a une découverte, il faut que ce qu'on voit, donc qu'on voit un excès comme ça, quelque chose qui ressemble à un signal, la probabilité pour que ce soit juste une fluctuation, comme ça peut arriver.
Ce que vous appelez une fluctuation, c'est une variation.
Voilà, des fois, vous lancez 10 fois une pièce et tombe 10 fois sur pile. C'est très peu probable, mais ça arrive. Donc voilà, on veut que on soit sûr qu'avec une chance sur ces 3,5 millions. Voilà, donc on veut vraiment être sûr. Vous lancez 3,5 millions de fois votre pièce et si vous tombez tout le temps sur pile, là, vous vous dites...
Il n'y a pas de face.
Voilà.
Là, vous concluez que la pièce est truquée.
La pièce est truquée. Alors, 3,5 millions. Ce qu'on voit aujourd'hui dans le signal, donc l'excès qu'on voit localement à cette masse-là, c'est une chance sur 20 000. Vous voyez qu'on est encore très loin de ce 3,5 millions.
Bon, ça, c'est pour les deux expériences combinées ou pour une seule?
Pour une expérience.
On est très exigeant,
puisqu'à la fin, c'est tout à fait exact qu'a dit Elisabeth, il sera mis au carré, puisqu'en fait, on a deux expériences qui feront l'observation. Le truc, c'est que c'est pas aussi simple que ça, d'une certaine façon, parce que on a une fluctuation à un certain endroit, mais on a regardé un petit peu partout. Il faut renormaliser par le fait qu'on regarde partout. Et en fait, on voit rien ailleurs. On a juste une fluctuation. Comment peut-on décider de regarder en particulier à cet endroit-là? En fait, la vision des théoriciens, elle est réduite à cet endroit-là. Ils sont très excités. Nous, la nôtre, ben, elle s'étend sur tout le plan de mesure. Et on se dit, bon, ça peut arriver. Ensuite, on regarde l'autre expérience. Puis là, on est au même endroit. Là, ça devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant. Pas juste un peu plus intéressant, mais considérablement plus intéressant.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a voulu construire deux expériences indépendantes où jusqu'au dernier moment, en fait, jusqu'au 15 décembre, dans Atlas, on ne savait pas ce qu'il y avait dans CMS et vice-versa, parce qu'on veut vraiment ne pas être biaisé et travailler. Et c'est vrai qu'effectivement, le fait de voir quelque chose dans les deux expériences, c'est quand même intéressant.
Donc ça veut dire que vous avez deux observations, finalement, du même phénomène de façon indépendante.
Des fluctuations similaires, on en a, je dirais, à peu près à tous les quelques semaines au sein de l'expérience dans l'un ou l'autre des très nombreux canaux que l'on regarde. Et ça meurt, et ça descend, et ça s'évanouit. Et des fluctuations en coïncidence entre deux expériences avec un signal aussi pur, parce qu'en fait, c'est une des analyses les plus simples qui soit. Il n'y a pratiquement pas plus simple que ça. On regarde deux photons dans le détecteur avec une bosse, une masse invariante. On ne peut pas se tromper. Si le signal est là, il sera là. Il n'y a pas d'erreur possible. Donc, d'ailleurs, s'il n'est pas là, ce n'est pas une erreur non plus. Ça sera une fluctuation statistique, puis tant pis, ça sera mort. Donc, c'est un truc qui est vraiment extraordinairement pur. C'est peut-être là que naît aussi chez les expérimentateurs un peu plus d'excitation que d'habitude pour une fluctuation, comme on en a vu d'autres, parce qu'il y a cette coïncidence entre deux expériences et parce que le signal est extraordinairement propre et extrêmement pur. On a pu mesurer la pureté de mesure des photons et elle est plus de 90% pour mesurer ce genre de signal. Donc c'est quelque chose qui est très très pur, qui peut pas être modélisé par du bruit de fond, c'est juste sauf la statistique, sauf une fluctuation. Donc c'est pour ça qu'il y a...
Mathieu Grousson, vous voulez intervenir depuis un moment, ensuite Elisabeth Petit.
Oui, les analyses sont évidemment réalisées avec la plus grande rigueur mathématique et statistique, mais il y a aussi cette probabilité subjective dans la tête des physiciens que la fluctuation soit quelque chose de réel. Et il y avait un théoricien qui, lors d'une conférence organisée à Morieux en mars, disait « Si on est face à une fluctuation du hasard et pas un vrai signal, alors ça sera la fluctuation la plus diabolique qu'on a enregistrée ces 30 ou 40 dernières années. »
Elisabeth Petit.
C'est vrai.
Oui, parce que là, vous parliez de 1 sur 20 000, mais en réalité, si on combine les deux, on arrive à quelque chose qui est cité dans l'article de Mathieu Grousson, qui est plutôt de l'ordre de...
Qui est un peu plus, oui, je sais plus, j'ai plus le chiffre exact en tête. Mais c'est vrai, ce qu'il faut voir, ce que disait Yves, c'est que, il n'y a pas, justement, comme on n'avait pas de théorie, il n'y a pas une théorie qui nous a dit « Ah, regardez à cet endroit, vous allez voir quelque chose ». Donc, on a regardé vraiment un espace très très grand, et là, voilà, le fait de voir quelque chose à un endroit... est plus probable que de voir quelque chose exactement. C'est comme quand on parlait tout à l'heure de loterie. La probabilité pour que vous gagniez à la loterie est très petite, mais la probabilité pour que quelqu'un gagne à la loterie est plus grande. Et là, c'est un peu ça. Comme on regarde à beaucoup d'endroits, la probabilité de voir une petite fluctuation quelque part est quand même augmente. Donc au final, c'est quelque chose comme une chance sur 40 quand on tient en compte cet effet. Donc on ne peut vraiment pas conclure à ce stade-là.
Là, je voulais juste dire par rapport à ce que Mathieu disait sur la réalité subjective.
Oui,
il n'y a pas de honte. Hein? On n'est pas des machines à faire des mesures. S'il y avait des machines à faire des mesures, on n'aurait pas besoin d'expérimentateurs. Donc il n'y a pas de honte. On fait des choix. Et notre excitation, elle est aussi guidée par l'intérêt, le choix et tout. Donc ça, c'est pas honteux, cette partie-là. Sauf que on a cette prudence parce que au sein des expériences, on voit quand même souvent des fluctuations. Pas souvent en coïncidence, pas souvent aussi joli, pas souvent aussi simple, mais on voit souvent des fluctuations. Donc on est raisonnablement prudent.
Il y a quand même aussi un passé qui peut inciter à la prudence, c'est la fameuse histoire des neutrinos qui, elle, s'est soldée par la découverte d'un problème expérimental et non pas de la découverte de particules capables de se déplacer plus vite que la lumière.
On pourrait en faire une émission complète, mais sur ce genre d'observation.
C'est difficile de pas faire
et
de lien.
Encore une fois, nous, expérimentateurs, on considère pas que ce soit, disons, honteux de... Il y a un moment donné où les données nous disent, tiens, il y a peut-être quelque chose, et c'est vrai qu'il y a une excitation qui naît, et souvent, ça permet aux théoriciens, même si c'est faux, de débroussailler la théorie et de nous dire, ben voilà les possibilités, voilà ce que ça contredit, voilà. Donc, finalement, on apprend même de ce genre de fluctuations. Mais au sein des expériences, c'est tellement grand, les expériences, c'est des collaborations internationales où il y a beaucoup de filtres. Et en fait, juste donner un exemple, quand on publie ou quand on envoie une publication, c'est jamais arrivé, ni de CMS ni d'Atlas, qu'une publication ne soit pas acceptée par une revue référée de journal, hein? Contrairement à d'autres domaines scientifiques. Mais l'autre, par définition, c'est tellement, tellement raffiné, tellement vérifié au sein des expériences que, en gros, au premier ordre, nos publications, du point de vue technique, sont essentiellement parfaites et donc toujours publiées. publie. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu particulier dans le domaine. On a un seuil de communication qui est un peu plus haut, disons. On attend que les choses soient vraiment vérifiées.
Oui. Et c'est vrai qu'on a fait, comme tu disais, on a fait énormément de vérifications. C'est au final un signal très, 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 très clair. Enfin, le signal qu'on cherche est très clair, je veux dire, avec des photons. Donc c'est vrai que ça pourrait être une fluctuation, mais effectivement, ce serait vraiment une fluctuation diabolique. Et, mais je pense, à ce stade, on ne pense pas que ça puisse être un problème expérimental. Mais c'est déjà arrivé en physique des particules qu'on voit comme ça des fluctuations qui, en fait, n'en étaient pas. Je pense que les gens qui ont travaillé au LEP ont pensé avoir peut-être vu le boson de Higgs en 2000 et finalement, au LHC, on a vu qu'il n'était pas là. Donc, c'est des choses qui arrivent.
Abdellah Djouadi, est-ce que vous adhérez avec cette appellation de fluctuation diabolique si jamais elle se révélait fausse?
Absolument. Enfin, moi, je l'appelle plutôt la mère de toutes les fluctuations. Quoi. Non. Alors, non. Ce qui est intéressant.
On va peut-être arriver justement jusqu'aux conséquences de ces. Là, je crois qu'on a bien mesuré quand même qu'il y a une forte probabilité, qu'il y a quand même des éléments importants qui plaident en faveur de l'existence de cette particule. Si elle existe, vous alliez nous parler des conséquences possibles. Quelle serait pour vous la conséquence la plus probable sur le modèle standard et sur les failles de ce modèle dont vous avez déjà parlé?
La première chose qui est claire, c'est que le modèle standard, on a déjà un signal clair de quelque chose qui est au-delà du modèle standard. C'est-à-dire, c'était pas seulement une vue de l'esprit, les failles qu'on lui supposait et se sont avérées exactes, et donc il y a quelque chose en fait de plus fondamental qui remplacerait le modèle standard. Alors, une chose intéressante, et ça, je le dis pour les jeunes qui commencent à rentrer dans le sujet, c'est quelque chose d'absolument inattendu. Et donc, toutes les options sont sur la table et toutes les possibilités sont ouvertes, sont là. Mmh. Voilà, absolument. Et donc, c'est ça qui vraiment fait l'excitation, parce que ça aurait été exactement comme vous l'aviez à un moment dit à propos du boson de Higgs. Le boson de Higgs, ça a été bien sûr quelque chose d'absolument, un moment magnifique, mais après la découverte, ça n'a pas changé le cours de l'histoire. Quoi.
On a même dit quand même que certains physiciens étaient déçus qu'on ait découvert le boson de Higgs tel qu'on l'imaginait, parce que justement, il ne changeait rien à ce qu'on croyait, au modèle qui existait jusque-là.
Absolument.
Déçu.
Justement, contrairement à ce que disait
Sirois, on était déçus, semble-t-il.
Les théoriciens étaient tellement sûrs que le TX était là, ça n'a pas été
bouleversant.
Exactement. Là, justement, c'est absolument la situation inverse. On a un phénomène nouveau qui n'est prédit pratiquement par aucune théorie et qui ouvre pratiquement toutes les perspectives. Et c'est ça qui fait que la chose est en soi très intéressante et très, très excitante.
Ça veut dire... Juste rajouter quelque chose dans le même sens que Abdellah, un petit peu quand même cette fois-ci.
Vous avez le droit d'être d'accord avec un théoricien.
Je suis toujours d'accord avec Abdellah au fond. Mais le fait est que c'est pas une particule de plus, encore une fois. On sait déjà des choses à partir pour cet objet, si c'est une réalité, si c'est quelque chose de nouveau. On sait que c'est un boson. On ne sait pas quel type de boson. Ça peut être un boson d'interaction, ça peut être un boson du type boson de Higgs. Mmh. Mais les bosons, c'est quelque chose d'absolument profond dans la théorie. C'est ce qui détermine les interactions fondamentales. Donc, observer un nouveau boson, ce n'est pas juste un élément de plus dans un bestiaire. C'est une nouvelle interaction d'une façon ou d'une autre. Et c'est ça qui est intéressant.
Alors, peut-être pour préciser ce dont vous parlez, le boson, c'est-à-dire il y a plusieurs types de particules, familles de particules à l'intérieur de la matière, qui sont subatomiques, c'est-à-dire qui constituent les atomes. Peut-être faut-il les rappeler pour qu'on sache un peu comment situer cette particule X. Elisabeth Petit, tout le monde se renvoie la balle. Elisabeth Petit, à l'unanimité.
D'accord, à l'unanimité. Oui, donc effectivement, il y a deux grands types de particules, ce qu'on appelle les fermions, qui sont vraiment la matière, donc c'est ce qui va constituer la matière, la table, tout ce qu'on a. Et les bosons qui, eux, se chargent, ce qu'on dit, de transmettre les forces. Donc les forces, il va y avoir la force électromagnétique, donc la lumière. Et là, le boson correspondant, ça va être le photon. Et il y a aussi d'autres forces, donc la force faible qu'on retrouve dans la radioactivité ou dans la fusion dans le soleil. Donc ça va être d'autres bosons dits WZ. Il y a des gluons qui servent à faire tenir la matière entre elles. Et je pense que j'ai fait le tour. Et le boson de Higgs, évidemment, qui va donner sa masse à la matière. Donc voilà, les bosons, eux, ils sont en charge de transmettre les forces, un peu comme voilà, je vous lance une balle et...
Voilà, donc on appelle particules, en fait, des choses qui sont à la fois... pour certaines matériels et d'autres qui sont des transmetteurs de force, qui ne sont pas forcément des objets ou des...
Dans la théorie moderne, c'est conceptuellement la même chose. C'est-à-dire que ce sont les deux même chose. La différence, c'est que les bosons aiment travailler ensemble et ils ont des propriétés quantiques qui font que les interactions peuvent les particules peuvent agir de façon cohérente et créer de l'interaction. Ils ont ensuite des particularités quantiques un petit peu différentes des fermions. C'est pour ça qu'on dit que les bosons, en fait, ils sont reliés de façon vraiment fondamentale aux symétries de la théorie. C'est profondément une question de symétrie, les bosons. Et ensuite, les fermions, ils s'organisent pour respecter les symétries qui ont été déterminées par les bosons.
Mathieu Rousson.
Ce qui est absolument passionnant, c'est que ces 30 ou 40 dernières années, les différentes expériences en physique des particules, si j'ose dire, même si c'est excessif, se sont bornées à vérifier les prédictions du modèle standard, à confirmer cette construction théorique. Là, c'est la première fois depuis 40 ans, si jamais cette observation est confirmée, que l'on est face à une page blanche, à quelque chose de radicalement nouveau dans le panorama de l'infiniment petit. Un certain nombre de physiciens ont cité 1936, c'est la découverte d'une particule appelée muon, une particule que personne n'attendait. Il y a un célèbre physicien, Rabi, qui a dit quelque chose comme « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» ou « qui a commandé ça ?»
Mais qui a commandé ça ?
Et donc c'est la première fois depuis 1936 qu'on se retrouve dans cette situation.
Alors justement, Abdelhak Djouadi, vous avez suggéré tout à l'heure que cette nouvelle particule, si son existence est confirmée, remet complètement en cause le modèle standard. Est-ce que vous confirmez que c'est un nouveau modèle complètement avec une page blanche, comme vient de le dire Mathieu Rousson, qui serait à écrire, ou bien est-ce que c'est une évolution du modèle tel qu'il existe, qu'il faudrait exécuter ?
Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire le modèle standard, c'est clair qu'il décrit la réalité à des énergies qui sont inférieures à la masse de cette nouvelle particule. De toute façon, le modèle standard, il a été vérifié et c'est une vérité qui va rester. Sauf que il va y avoir quelque chose d'un peu plus large maintenant qui va l'englober et qui va décrire, c'est-à-dire tout ce que le modèle standard décrit, mais en plus, il va décrire les propriétés et les interactions de cette nouvelle particule si elle est là. Alors ce nouveau modèle, c'est pas forcément quelque chose d'absolument nouveau. C'est-à-dire, il y a quand même eu depuis 40 ans, plein de théories proposées pour tout ce qui est au-delà du modèle standard. Ces théories-là ne prédisent pas exactement cette nouvelle particule, mais il y a moyen de les adapter, hein, de les affiner de manière à ce qu'ils puissent décrire cette nouvelle particule. Par exemple, si je peux donner un exemple, il y a des modèles, par exemple, de ce qu'on appelle de supersymétrie. Alors, on vient de parler des bosons et des fermions. Il y a une théorie qui est un peu à la mode et qui est en vogue et qui décrit de manière unifiée et les particules de matière, les fermions, et les particules de force, les bosons. C'est une supersymétrie qui englobe les deux particules. Alors, elle comporte en fait de nouveaux, parce que c'est une symétrie élargie, elle comporte en fait des nouvelles particules qui peuvent très bien correspondre à ce qu'on observe au LHC actuellement, enfin ce qu'on pense avoir observé au LHC. Sauf que ce n'est pas tout à fait la manière un peu standard, la manière un peu bateau dont on a jusqu'à présent traité cette théorie là. Maintenant, il faut un petit peu l'affiner, peut-être, un petit peu, peut-être pas lui tordre le cou, mais l'obliger plus ou moins à adhérer à la possibilité de cette nouvelle particule. Et là, ça va demander bien sûr du temps, du travail, mais c'est tout à fait possible que cette particule puisse être interprétée dans des extensions qui ont déjà été proposées par le passé.
Alors, pour préciser les choses, il faut rappeler quand même les difficultés auxquelles sont confrontés le modèle standard. Il y a des phénomènes qui ne sont pas expliqués aujourd'hui par ce modèle. Est-ce que cette nouvelle particule pourrait jouer un rôle, par exemple, au hasard, dans l'explication de la matière noire et de l'énergie noire, donc, qui, combinée, représente 85% de la masse de l'univers, si j'ai bonne mémoire. Yves Sirois.
Oui, ça c'est pour moi peut-être l'hypothèse la plus attrayante. D'ailleurs, Abdelhak lui-même est un des auteurs d'un papier théorique qui a mis cette hypothèse sur la table. D'autres ont travaillé dessus ensuite. C'est un boson, ce qu'on a observé, ça on sait. Et ça pourrait être un boson qui est une espèce de médiateur entre la matière ordinaire et l'univers sombre. Moi, je l'ai baptisé le Dark Vader boson, hein, parce qu'il connecte l'univers, la matière ordinaire à la matière sombre. Et ça, c'est une hypothèse qui fonctionne bien.
Donc la matière sombre, c'est quand même ce qu'on ignore complètement, on ne sait pas ce que c'est.
On ignore complètement. Et pour elle interagit évidemment extraordinairement faiblement avec la matière ordinaire. C'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs la matière sombre. Et là, ça pourrait être un boson qui fait ce lien, qui fait cette connexion entre la matière ordinaire et la matière sombre. Ça, c'est une hypothèse qui fonctionne bien, qui donne des résultats qui seraient conformes à ce qui est observé de façon cosmologique et qui peut, d'une certaine façon, être en partie au moins confirmé par la forme que prendra cette résonance. La largeur de la résonance nous donnera des indications, parce que c'est relié au temps de vie de cette particule, nous donnera des indications intéressante. Donc ça, c'est vraiment une hypothèse vraiment, vraiment intéressante. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Mathieu, sur qui a commandé cela. C'est une situation différente. Rabi, quand il dit qui a commandé cela, c'est parce qu'on avait passé 2000 ans à étudier la structure de la matière, puis on pensait avoir compris ce que c'était que la matière, et soudainement apparaît un truc qui rentre pas dans ce cadre de la structure de la matière. Là, c'est un peu différent. On veut autre chose pour expliquer les failles de la théorie, sauf que ce qu'on trouve n'est pas vraiment conforme à ce qu'on aurait espéré. Donc c'est plutôt qui a fait les plans. Il y a quelqu'un qui s'est trompé dans les plans quelque part.
France Culture, Sciences Publiques, Michel Alberganti.
Nous débattons aujourd'hui la question « Quel mystère cache la particule X du CERN ?» avec nos invités Abdelhak Djouadi, directeur de recherche au laboratoire de physique théorique d'Orsay, Elisabeth Petit, membre de la collaboration Atlas au CERN, Yves Siroy, responsable du groupe CMS au CERN également, et Mathieu Grousson, journaliste, auteur du dossier sur la particule X publié dans Science et Vie. Alors voilà une hypothèse, la solution de l'énergie de la matière noire, ça serait quand même, j'imagine, quelque chose de très important. Abdelhak Djouadi, est-ce que vous plaideriez également pour ce type d'hypothèse ou pour la supersymétrie dont vous avez parlé et qui est quand même assez difficile à expliquer en quelques minutes? Ou bien, alors, à d'autres possibilités, on parle aussi de la gravité qui reste un des grands trous dans la théorie du modèle standard. Sur quoi vous parieriez aujourd'hui, dans l'état actuel des choses?
Bon, alors personnellement, je parierais sur la supersymétrie. Mais bon, tant qu'on ne connaîtrait pas encore, enfin, toutes les propriétés de cette particule, je crois que ce serait un peu prématuré de trancher. Non, il y a deux autres options qui sont sur la table et qui sont tout aussi motivées et intéressantes que la supersymétrie. C'est comme vous le disiez même, cette histoire de toutes ces théories qui incluent la quatrième interaction fondamentale qui est la gravité dans le jeu. Et cette théorie-là, en fait, elle prédise l'existence de dimensions supplémentaires d'espace-temps. Et dans cette dimension supplémentaire d'espace-temps, il y a moyen, en fait, de faire que de nouvelles excitations des particules connues puissent exister. Et cette nouvelle particule pourrait très bien être une excitation, par exemple, du graviton. Le graviton, si je peux rappeler, c'est le médiateur de l'interaction gravitationnelle. C'est un boson de spin 2. Hein. C'est comme un photon, mais il a d'autres propriétés quantiques un peu spéciales.
Sauf qu'on ne l'a jamais observé.
Sauf qu'on ne l'a jamais découvert. Enfin, bien sûr, on ne l'a jamais trouvé.
À ce détail près, oui.
Oui, ce détail près, parce que, enfin, comme c'est un objet de masse nulle, il interagit extrêmement faiblement avec le reste de la matière, hein, et donc il est absolument, presque impossible, en fait, enfin, pour le moment, en tout cas, de le détecter. Oui. Voilà. Sauf que, son compagnon, c'est-à-dire sa première excitation, son premier état excité, peut être assez massif. Et pourrait très bien être cette particule-là qu'on vient d'observer. Donc, c'est tout à fait possible.
Je voudrais juste avoir aussi l'avis d'Elisabeth Petit. Sur quelle théorie ou sur quelle solution elle pourrait pencher plus tôt aujourd'hui?
Ouais, honnêtement, j'ai pas du tout de théorie préférée. Je pense que, en fait, une des idées quand on a démarré cette analyse, c'était de chercher quelque chose justement qui n'était pas forcément prévu.
Et vous l'avez trouvé?
Trouvé, on ne sait pas encore. Mais
vous cherchez quelque chose, vous avez trouvé quelque chose. C'est déjà un premier point Après, il s'agira de savoir
non,
quoi.
Non, j'ai pas de théorie préférée, mais c'est vrai qu'effectivement, avant le 15 décembre 2015, il y avait quasiment, à part des théories de graviton, quasiment aucune théorie. Et maintenant, on est à plus de 350 papiers. Et je pense qu'au final, même si c'est pas vraiment un vrai objet, ça aura au moins eu le mérite peut-être de réveiller vraiment les gens, de dire, bon, voilà, il y a des théories, ça fait 30 ans qu'on se dit, ils sont pas là et on les voit pas, et de se dire, on cherche, voilà, je pense pour les théoriciens de se dire, j'imagine quelque chose de complètement différent, et plus ce serait bizarre, plus je préférerais que ce soit au final.
Mathieu Rousson, c'est ça que vous avez remarqué, une prolifération d'études, alors en quelques mois.
En quelques mois, 150 à 200 publications théoriques et de façon absolument passionnante, renversante, j'ai envie de dire, quoi que soit cette chose, si jamais elle est confirmée, ça remet en cause, du moins ça bouleverse assez largement la vision qu'on a de l'infiniment petit. S'il y a cette supersymétrie, ça veut dire que les forces et les particules de matière, finalement, c'est un peu la même chose. Si ça a à voir avec le graviton, la particule médiatrice de la gravitation, alors ça veut dire que l'espace n'a pas trois dimensions, mais quatre. Si jamais c'est encore autre chose qu'on n'a pas encore décrit là, c'est peut-être aussi l'idée qu'il y a une cinquième force. Jusqu'à maintenant, on n'en connaît que quatre. La première, la gravitation, c'est Newton, le 17e. Ensuite, l'électromagnétisme, c'est le 19e. Les interactions nucléaires, c'est le début du 20e. Là, on en aurait une cinquième, vous voyez, 100 ans plus tard. Dans tous les cas, on est face à quelque chose qui est radicalement nouveau, quoi.
Yves Sirois.
Oui, déjà, c'est plus que 350 articles aujourd'hui, donc ça continue.
La foisonnée.
On parle dans le domaine de
donc, 350 articles, je vous coupe là sur quelque chose qui n'est pas confirmé.
On est bien d'accord, mais je vais vous expliquer pourquoi. on parle dans le domaine de quelque chose qui ressemble à ce que font les avocats aux États-Unis. On appelle ça le ambulance chasing. Les avocats aux États-Unis, quand ils veulent avoir des cas, ils suivent l'ambulance parce qu'ils vont arriver le premier sur le mort. C'est exactement ça qui se passe. Les théoriciens font de l'ambulance chasing. Ils ont peut-être une petite option nouvelle. Ça excite l'imagination. Il y a énormément de publications publiées, beaucoup de très bonnes et beaucoup de moins bonnes. Et c'est pas totalement un phénomène nouveau non plus. Il y a eu des phénomènes comme ça à l'occasion au cours des 20 ou 30 dernières années. Il se trouve que là, on est dans une période vraiment critique.
Pas de cette ampleur.
Pardon?
Pas oui. De cette ampleur, quand même.
Pas de cette ampleur, non, peut-être pas exactement, mais ce que je veux dire, c'est que la différence, c'est ce que je disais au début, la période actuelle est extraordinaire. On explore pour la première fois des territoires nouveaux comme jamais avant, et c'est peut-être la dernière occasion qu'on a avec cette machine-là, parce qu'on est à l'énergie maximale de la machine. On pourra aller un peu plus loin en accumulant un peu plus de statistiques. C'est maintenant, dans les prochains mois, dans les deux prochaines années, que se décide le futur du domaine en fonction de ce qu'on observe. Donc, ce niveau d'excitation est d'autant plus important qu'on est dans une période absolument critique de l'histoire de science.
Elisabeth Petit, vous voulez intervenir? Non? Abdelak Djouadi, vous êtes parmi, vous faites partie de ces théoriciens hyper excités, donc, par l'ambulance dont parlait Yves Sirois.
Qui ont écrit effectivement plusieurs articles sur cette possibilité. Non, quand on parle d'ambulance chasing, bon, c'est clair que les théoriciens n'attendaient que ça. Ça fait, comme je le disais tout à l'heure, 30 ans qu'on attend la faille du modèle standard pour qu'elle se manifeste. Et là, bon, elle est devant nous. Ben, bien sûr, c'est à la limite même dans l'ADN du théoricien que d'essayer d'expliquer un phénomène qu'on pourrait observer.
Donc là, ça prouve simplement votre soif de le faire, puisque vous lancez l'apparition de ce signal avant même qu'il soit confirmé. Et que l'existence est particule.
Voilà. On anticipe un peu. D'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé pour le Higgs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pour le boson de Higgs, déjà en décembre 2011, il y avait à peu près la même, une indication à peu près de la même teneur statistique que celle qu'on observe maintenant pour cette nouvelle résonance. Et pour les théoriciens, de toute façon, 3 sigma à l'époque, c'était absolument suffisant pour décréter que le Higgs était là.
Donc le sigma, c'est la façon d'exprimer la probabilité.
Absolument.
D'existence.
C'est la teneur de la fluctuation statistique. Alors quand on dit par contre quand on dit qu'il y a eu 300 articles, donc il y a eu, c'est pas 350 modèles quoi. En fait, c'est des aspects des mêmes modèles qui sont décrits de manière un peu différente dans ces articles. En fait, il y a grosso modo, comme ça a été déjà discuté, trois grosses avenues
pour cette possibilité de nouvelles particules. Alors on a parlé de la supersymétrie, on a parlé de la gravitation de la quatrième dimension, mais il y a aussi une autre possibilité qui est le fait qu'il y ait une sous-structure de la matière qui n'est pas celle qu'on connaît. En fait, il y a la matière qu'on connaît, en fait, elle est composée, elle n'est pas fondamentale, c'est-à-dire, par exemple, le boson de Higgs ou cette particule, c'est pas un objet fondamental.
Donc on descendrait d'un étage encore dans les composants de la matière.
Dans les composants de la matière. Et ça, en fait, c'est une option qui est tout à fait viable et qui est tout à fait intéressante et qui a, entraîné pas mal de discussions. Et justement, cette particule serait la première manifestation d'un état lié, hein, des constitutions qu'on voit habituellement. Et ça, on trouverait donc la porte à une théorie beaucoup plus générale, hein, et beaucoup plus complète que le modèle standard.
Alors Yves Sirois, maintenant il s'agit de savoir ce qui va se passer. Tout le monde est conscient que cette particule X, son existence, aurait beaucoup d'implications, même si on ne les connaît pas encore avec certitude. Donc le LHC, pour l'instant, est à l'arrêt. C'est son interruption un peu d'hiver, non, pas du tout, dit Elisabeth Petit. Donc je vais lui donner la parole pour qu'elle nous explique l'état actuel du LHC et qu'est-ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui vis-à-vis de cette particule X.
Oui, donc en fait, tous les ans, l'hiver, on fait un arrêt technique du LHC, mais il a redémarré en mars et on a même eu nos premières collisions utilisables pour la physique le week-end dernier. Donc là, ça y est,
c'est très récent.
Voilà, le LHC est vraiment reparti. Et c'est vrai que l'année dernière, il a redémarré un petit peu doucement parce qu'on avait fait un arrêt de plus de 2 ans où on avait échangé beaucoup de composants, tout ça, sur l'accélérateur.
Pour augmenter sa puissance.
Pour augmenter la puissance. Donc c'était vraiment presque une nouvelle machine. Donc voilà, ça a pris un petit peu de temps. Mais là, ça y est, on comprend bien. Et normalement,
donc vous refaites des expériences et qu'est-ce que vous allez faire par rapport à cette particule pour essayer de dépasser le degré de confiance que vous avez atteint aujourd'hui?
En fait, c'est vrai qu'on l'a dit, c'est une analyse relativement simple. Donc ce qu'il nous faut, c'est plus de données. Et donc pour ça, maintenant qu'on a eu, ça y est, notre première collision, le LHC produit des collisions en ce moment. Et d'ici l'été, on devrait avoir à peu près suffisamment de données pour voir si ce petit pic là qu'on voit qui dépasse de ce qu'on attend est vraiment là ou pas.
Donc là, en plus, vous savez où chercher maintenant. C'est la différence avec avant la première expérience, Yves Sirois.
Oui, bon, ce que dit Elisabeth, ça concerne le canal en 2 photons, le canal qui est observé pour l'instant. Il sera nécessaire et suffisant d'avoir le canal en 10 photons à 5 écarts standard dans 2 expériences.
Là, on ne comprend rien à ce que vous dites, mais
le jour où on aura plus de signal dans cette voie en 2 photons dans chacune des 2 expériences, on aura une confirmation. C'est nécessaire et suffisant pour annoncer une découverte. Ceci dit, il y a d'autres outils. Comme on désintègre cette particule si elle existe en paire de photons, elle devrait aussi vraisemblablement être vue dans d'autres canaux, par exemple avec un photon et un boson lourd. Un photon lourd qui est le boson de l'interaction faible, le boson Z. Donc la désintégration en photon plus boson Z doit être observée à un moment donné. La formation en 2 bosons Z doit être observée à un moment donné. Peut-être aussi la désintégration de cet objet en 2 bosons de Higgs, celui qu'on a découvert en 2012. Donc ces différentes voies d'observation sont étudiées. Peut-être qu'on verra quelque chose, peut-être pas, mais ils sont, disons, raisonnablement probables en plus d'un signal en 2 photons, si jamais celui-là est confirmé.
Juste pour préciser, ces particules dont vous essayez de démontrer l'existence, elles ont une durée de vie de combien ?
Ces particules ont des durées de vie extraordinairement petites. Si elles n'avaient pas des durées de vie aussi petites, on serait capable éventuellement, si elles étaient se désintégraient en particules chargées, d'observer ces particules, le temps de vie dans le détecteur. Mais en fait, c'est dans une zone qui est beaucoup trop petite pour être observable.
Donc c'est infime.
Non, pas infini, mais du point
infime,
de vue...
Infime,
oui, tout à fait.
Tout ce qu'on voit dans le détecteur, c'est vraiment les particules. La particule se désintègre et c'est les produits de cette désintégration qu'on voit dans le détecteur.
Désintègre.
Voilà, certains. Mais c'est jamais directement la particule qu'on peut voir.
Mathieu Rousseau. Si vous voulez, les débris des désintégrations qui sont attrapés par les détecteurs, c'est un petit peu comme ce que voient des enquêteurs sur une scène de crime. Ils voient quelques cheveux par ici, une tache de sang par là, des objets mis sans dessus-dessous. Et à partir de là, ils vont reconstruire ce qui s'est passé avant et ce qui est la cause de ce qu'ils observent. Et de la même manière, les physiciens des particules, attrapant dans leur filet tous ces débris de la désintégration, remontent le temps et disent « ça, ça veut dire qu'une fraction de seconde avant, il y avait au centre du détecteur quelque chose qu'on n'a pas vu mais qui était là ». Peut-être cette particule X dont nous parlons.
Alors Yves Sirois, pour essayer de bien cadrer la perspective dans laquelle s'inscrit ces découvertes ou ces mesures actuelles, l'objectif du LHC, l'objectif à terme, est-ce qu'il est fixé? Est-ce qu'on peut le définir aujourd'hui? Ou bien est-ce que finalement on va être soumis aux découvertes aléatoires comme celle de cette particule X qui n'était pas prévue? Qu'est-ce qu'on cherche au LHC finalement?
Le grand objectif scientifique de départ était la découverte du boson de Higgs, mais il y en avait d'autres. Il y avait de comprendre l'origine de la matière noire, comprendre l'origine de l'asymétrie entre la matière et l'antimatière dans l'univers, par exemple, comprendre la structure.
Oui, là, pour dire, on ne sait pas où est passée l'antimatière.
La différence avec le boson de Higgs, c'est que pour le boson de Higgs, on connaissait, disons, l'échelle où devait se situer cette nouvelle physique. Comme disait Abdelhak, on espère bien qu'il y ait autre chose pour expliquer les failles de la théorie, mais mathématiquement, formellement, on ne connaît pas cette échelle-là, puisque la théorie est au moins mathématiquement, formellement valable jusqu'à l'échelle de Planck. Ce n'était pas le cas avant. Si on avait pas découvert le boson de Higgs, la théorie, le modèle standard s'écroulait à une échelle que l'on pouvait explorer avec le LHC.
Quand vous dites l'échelle de Planck, vous pourrez...
L'échelle de Planck, disons, c'est une distance ou une énergie telle que on ne peut plus négliger les fluctuations d'espace-temps, les fluctuations en énergie d'espace-temps. Ça veut dire qu'il y a des fluctuations d'espace-temps qui sont tellement énergétiques qu'elles rendent la définition même d'un point dans l'espace impossible. Donc c'est vraiment une échelle qui est une échelle de très très haute énergie. Donc c'est au-delà des connaissances, au-delà de l'échelle de Planck qu'on ne connaît pas en fait la physique pour l'instant. Donc on avait une théorie qui est mathématiquement valable jusqu'à cette grande échelle, donc qui nous permet de remonter presque jusqu'au début de l'univers. Et cette théorie-là, on ne connaît pas la prochaine échelle. Et c'est pour ça que c'est des territoires inexplorés et on ne sait pas vraiment ce qu'on va trouver. Il se trouve que la machine, on fait cette recherche maintenant, dans ces territoires-là, maintenant, cette année, 2017-2018. Ensuite, on va accumuler plus de luminosité, on pourra mesurer plus précisément ce qu'on a vu avant. Mais pour l'essentiel, ce sont les deux, trois prochaines années qui, de mon point de vue, sont les plus importantes, et même les prochains mois, j'oserais dire, peut-être les plus importantes de notre histoire au LHC.
Elisabeth Petit, donc les prochains mois, vous pensez que ça sera suffisant pour statuer sur la particule X en quelques mots, parce qu'on approche du terme de l'émission.
Si le LHC fonctionne bien comme prévu, et je pense que là il va bien marcher, d'ici où il était, on devrait savoir si on a quelque chose ou si on avait une fluctuation diabolique.
Donc une publication peut-être à ce moment-là, il y aura une prise de position officielle du LHC, Yves Sirois, à ce moment-là.
Certainement, Mathieu Rousson, avant la fin d'été.
Un mot alors pour conclure.
Oui, nous allons suivre tout ça à Science et Vie avec beaucoup d'attention. J'imagine. Il y a le dossier en kiosque actuellement. Il y a un blog sur le site de Science et Vie qui, jusqu'à la découverte, si jamais elle est confirmée, nous donnera toutes les informations sur ce qui se passe aujourd'hui dans cet univers des particules.
Très bien. Eh bien le débat de Science Publique d'aujourd'hui s'achève. Merci à Abdelhak Djouadi, Elisabeth Petit, Yves Sirois et Mathieu Rousson d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez approfondir donc le sujet en lisant le dossier dont Mathieu Rousson vient de parler, qui s'appelle « L'univers n'est pas ce qu'on croit », publié dans le numéro de mai de Science et Vie, et toujours sur le site. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours, la podcaster pendant un an, bien entendu nous faire part de vos réactions, commentaires et témoignages, si possible, tout en bas de la page de Science Publique. La semaine prochaine, vendredi 6 mai, Science Publique abordera un sujet très différent, puisque nous débattrons de la qualité nutritive de notre alimentation. Science Publique, Vincent Abouchari, Pierre Faucillon, Marie Dalquier, Michel Alberganti. Okay, sister, you have a chance about the first within you.